Petites histoires des sciences. 1926, Dieu ne joue pas au dé. Le 4 décembre, Albert Einstein écrit une lettre au physicien Max Born pour lui exprimer ses doutes sur la mécanique quantique. Entamée dès 1920, l'opposition entre le physicien danois Niels Bohr et Einstein va atteindre son point de cristallisation en 1935. Donc en 1900, vous avez Max Planck à Berlin qui découvre, non sans étonnement puisqu'il n'y croyait pas lui-même, la discontinuité de l'énergie. Donc c'était quelque chose qu'on imaginait de continu, puis en fait, il découvre que l'énergie peut être constituée de petits paquets. Et cette idée va être étendue en 1905 par Albert Einstein à la lumière, puisqu'il va interpréter la lumière comme étant un ensemble de photons, de petits paquets de lumière. En 1913, Niels Bohr, donc le Danois, va interpréter les raies du spectre de l'hydrogène en construisant un modèle de l'atome où les électrons sont sur des couches électroniques stables et vont pouvoir bouger d'un niveau d'énergie à un autre. Donc si vous voulez, c'est comme si ça passait d'une orbite à une autre en réalisant des sauts quantiques tout en émettant un rayonnement identifiable sur les spectres par des lignes bien caractéristiques. Alors vous trouverez sur le site Petites Histoires des Sciences davantage de détails sur le lien entre les spectres d'émission et la structure de l'atome. Alors cette vision qu'a Bohr de l'atome répartie sur des couches électroniques bien définies, des couches de niveau d'énergie plutôt, cette vision elle va explicitement à l'encontre des lois classiques car elle contient l'affirmation selon laquelle à l'état stationnaire de l'atome, l'électron circule tout d'abord périodiquement selon une orbite quelconque, sans rayonner. Or, d'après la théorie de Maxwell sur l'électromagnétisme, l'électron devrait rayonner. Mais là, ce n'est pas le cas. Ensuite, d'après le modèle de Bohr, l'électron saute d'une orbite à une autre, et c'est pendant ce cours qu'il rayonne, pendant ce court saut, il va rayonner. Alors, l'avantage de ce modèle, c'est qu'il permet de produire des prédictions étonnamment fiables. On va retrouver les fréquences des lignes spectrales. L'inconvénient, c'est qu'il n'explique pas ce qu'il se passe réellement pour l'électron pendant le saut quantique. Est-ce que la transition se fait progressivement ou brusquement? Alors, si c'est progressivement, l'électron doit également changer progressivement de fréquence et d'énergie. Alors, on ne comprend pas comment il peut exister des fréquences précises pour les lignes spectrales. Si au contraire, la transition s'effectue brusquement, par bond, comment l'électron se déplace au cours du saut? Pourquoi est-ce qu'il n'émet pas un spectre continu de rayonnement entre le début du saut et la fin? Et par quelle loi son mouvement est-il déterminé lors du saut? Donc, autant de questions qui sont sans réponse. Or, pour Bohr, si ces questions sont légitimes, elles ne prouvent pas que les sauts quantiques n'existent pas. Cela prouve seulement que nous ne pouvons pas nous les représenter. Les concepts visuels à l'aide desquels on décrit les faits de la vie quotidienne, les expériences, les mots que nous avons, sont limités et ne peuvent pas représenter ce qui se passe lors du saut quantique. Alors, dès lors, la question qui devient centrale pour Bohr, c'est la suivante. Où précisément les concepts des théories classiques deviennent-ils inapplicables? Et entre-t-il en contradiction avec les données expérimentales? Et la première réponse qu'il donne à cette question, c'est une formulation en 1920 d'un principe, qu'on appelle le principe de correspondance, selon lequel les prédictions de la nouvelle théorie microscopique doivent correspondre asymptotiquement, c'est-à-dire se rapprocher au maximum, avec celles des théories classiques dans les domaines où ces dernières s'appliquent. Donc ce principe devrait, selon lui, conduire à la généralisation rationnelle des théories classiques. On va faire une pause musicale en écoutant un petit peu de musique de l'époque. That Thing Called Love de Zez Confrey, qui était un pianiste américain des années 20, qui était influencé par Ravel ou Debussy, mais c'est surtout dans le jazz qu'il excelle. En reprenant le cours de l'histoire, où finalement on ne sait pas ce qui se passe au niveau du saut quantique, et où Bohr nous dit finalement que nos mots ne nous permettent pas d'expliquer ce qui se passe, puisque nous sommes limités au niveau du langage et au niveau des concepts visuels que nous ont légués la physique classique. Alors, on va maintenant se déplacer en 1925, où un jeune physicien allemand protégé de Niels Bohr, qui s'appelle Heisenberg, va s'isoler sur une île pour soigner un rhume, et il travaille donc à ses sauts quantiques lui aussi, et il se convainc qu'il ne faut pas rechercher les orbites des électrons dans l'atome, mais que la donnée des fréquences d'oscillation d'une part et les amplitudes d'autre part, donc ce à quoi on peut accéder par la mesure sur les spectres, peuvent remplacer pleinement la connaissance de ces orbites. Alors il se met à la recherche d'un système mécanique plus simple du point de vue mathématique, qu'il trouve dans un oscillateur anharmonique pour ceux qui connaissent, et il construit un schéma mathématique où seules les grandeurs observables jouent un rôle. Alors il s'assure que la loi de la conservation de l'énergie est encore maintenue dans ce nouveau schéma, il calcule les divers termes contenus dans une table, donc en fait c'est une matrice, un objet mathématique qui avait été inventé peu avant, et il réussit en l'espace d'une nuit, avec ses calculs, à concilier les observations faites avec ce formalisme mathématique. Alors à son retour en Allemagne, à Göttingen, les physiciens Born et Jordan, et puis vous avez aussi Paul Dirac à Cambridge en Angleterre, qui vont compléter le travail d'Heisenberg, et ils construisent tout un édifice mathématique nouveau, qui est compact, cohérent, et qui va être prêt à affronter les faits expérimentaux. Alors au printemps suivant, en 1926, Heisenberg est invité à Berlin pour exposer la nouvelle mécanique quantique qui vient de naître, et parmi les auditeurs de ce colloque se trouve Albert Einstein, qui invite ensuite Heisenberg à venir chez lui pour parler plus en avant de cette nouvelle physique. Et Einstein, lui, ne comprend pas comment on peut admettre qu'il existe des électrons si on en élimine la notion de trajectoire et d'orbite, puisque pour Heisenberg, on ne parle que de fréquence et d'amplitude, et pas du tout de notion de trajectoire. Ça, il l'a évacué de son langage et de son schéma mathématique. Alors, Einstein, il appuie son argument sur le fait que dans une chambre de Wilson, on peut observer directement les trajectoires des électrons. Alors pour Einstein, c'est la théorie qui décide de ce qui peut être observé, et non pas l'inverse, comme le fait Heisenberg, puisqu'Heisenberg, il part de ce qu'on observe pour construire sa théorie, et Einstein, il dit, bah non, c'est normalement le contraire. Et Einstein, il demande à Heisenberg de décrire de façon plus précise la transition d'état d'énergie observée. Qu'est-ce qui se passe pour cet électron quand il passe d'un niveau d'énergie à un autre? Alors Heisenberg là, se retranche derrière Bohr en affirmant qu'on ne peut pas parler d'une telle transition en utilisant des concepts existants, que l'on ne peut pas la décrire comme un processus qui se passe dans l'espace et le temps. Et Einstein, là, se montre très sceptique devant ses arguments, et quant à la réponse apportée, les deux espèrent finalement que le développement de cette nouvelle physique va apporter des réponses plus concrètes sur le comportement de l'électron lors des transitions, donc là, match nul. On va écouter By the Pyramids, hein, donc des pyramides qui ont aussi fasciné les mathématiciens avec leur nombre d'or, mis en musique ici par l'ensemble The Happy Six, un ensemble jazz prolifique des années 20. Bien, alors on va continuer notre histoire, on va se placer une année plus loin, en février 1927, où Heisenberg retourne à Copenhague, où il peut travailler aux côtés de Bohr sur le développement de la mécanique quantique. Et là, il va chercher à savoir comment on peut représenter la trajectoire d'un électron dans la chambre de Wilson, dans le cadre mathématique de la mécanique quantique. Donc vous avez la trajectoire de l'électron qui existe vraiment, puisqu'on peut l'observer dans cette fameuse chambre de Wilson. Et vous avez le schéma de la mécanique quantique qui est beaucoup trop convaincant pour se prêter à des modifications. Donc selon Heisenberg, il doit être possible de faire un lien entre les deux. Et c'est à ce moment donc de réflexion que lui revient en mémoire la phrase d'Einstein que c'est la théorie qui décide de ce que l'on peut observer. Et il réfléchit, il se dit que peut-être ce n'est pas exactement la trajectoire d'un électron dans la chambre de Wilson, qui est observée. Peut-être qu'on aperçoit simplement une suite discontinue de positions qui sont imparfaitement précisées d'un électron. Ce que l'on voit dans la chambre de Wilson, ce sont des gouttelettes d'eau, en fait. Donc chacune est beaucoup plus étendue qu'un électron. Et il se demande si on peut représenter dans le cadre de la mécanique quantique une situation où un électron se trouve à peu près, c'est-à-dire à une certaine imprécision près, hein, en une position donnée, et possède à peu près, c'est-à-dire à une certaine imprécision près, une vitesse donnée. Et est-ce qu'on peut rendre ces imprécisions suffisamment faibles pour qu'il n'y ait pas de contradiction avec l'expérience? Et donc Heisenberg arrive à se représenter mathématiquement cette situation, et les imprécisions sont reliées par ce qu'on va appeler ensuite le principe d'incertitude, ou plutôt le principe d'indétermination. Alors la formulation par Heisenberg des relations d'indétermination, qui limite la précision avec laquelle on peut déterminer la valeur d'une variable, si on connaît précisément celle de sa variable conjuguée, conduit Bohr à prôner une révolution dans les concepts. Selon lui, les représentations spatio-temporelles et causales de la physique classique sont complètement inadéquates pour décrire le domaine quantique. Et ses réflexions débouchent sur le principe de complémentarité, énoncé pour la première fois par Bohr en 1927 à la conférence de Com en Italie. Il postule l'existence d'une relation, donc une relation de complémentarité, entre certains concepts classiques, par exemple le concept de position et celui de la quantité de mouvement, qui est le produit de la masse par la vitesse, ou encore le concept de temps et celui d'énergie. Et l'usage simultané est problématique dans le domaine quantique. Donc selon Heisenberg, on ne peut pas déterminer à la fois une valeur précise de la variable position et la variable quantité de mouvement, qui est liée à la vitesse, pour un même processus quantique. Les deux concepts ne peuvent pas être employés dans la même description du phénomène. Donc pour Bohr, ils produisent des descriptions qui sont incompatibles, mais complémentaires l'une de l'autre. Le processus quantique ne doit plus être décrit par l'attribution simultanée d'un ensemble de propriétés, mais seulement par une série de représentations partielles et incompatibles les unes avec les autres. Bien, alors on va faire une petite pause musicale à nouveau avec le chanteur Billy Murray, qui lui aussi était actif dans les années 20. Il a mis en chanson des questions stupides qu'on pouvait lui poser, qui étaient beaucoup plus légères que celles que nous sommes en train de traiter.
The foolish questions, and no doubt you wondered why a person who will ask them can expect a sane reply. Did you ever bring a girl a box of candy after tea and notice how she grabs it and then says, "Is this for me?" Foolish question, you should answer when you can. No, the candy's for your father or your mother or for John the hired man. I just wanted you to see it, now I'll take it all away. Now there's a question that you'll hear most every day. And then most every morning there is someone round the place who sees you take a shaving brush and lather up your face. And as you give the razor a preliminary wave, this fool will always ask you, "Are you going to take a shave?" Foolish question, and your answer is, I hope, "No, I'm really not at all prepared for shaving, but I like the taste of soap. I just like to take the shaving brush and paint myself this way." Now there's a question that you'll hear most every day. Suppose an elevator boy forgets to close his doors, and you should tumble down the shaft past 27 floors. And as you reach the bottom and are lying there inert, the first one who approaches will exclaim, "Oh, are you hurt?"
foolish question, and your dying words are no. I was in an awful hurry, and this elevator runs too blooming slow. I have found I save a lot of time by coming down this way. Now there's a question that you'll hear most every day.
Mais alors maintenant que les positions des deux camps ont été définies, on en vient maintenant au moment le plus croustillant de cette controverse. Après que Bohr ait énoncé le principe de complémentarité, qui devient le cœur de l'interprétation de Copenhague, les plus grands physiciens sont invités en 1927 à Bruxelles, au congrès Solvay, pour discuter de la mécanique quantique. Tous les physiciens sont logés au même hôtel, et l'essentiel des discussions n'a pas lieu en salle de conférence, mais pendant les repas. Alors comme on l'a vu, Einstein est d'emblée méfiant vis-à-vis de l'aspect irréductiblement statistique des prédictions de la mécanique quantique. Cela constitue une première raison de son désaccord avec Bohr. Selon lui, une telle théorie basée sur les statistiques ne peut pas être fondamentale. Alors il n'a rien contre le fait des prédictions probabilistes, hein, là où on ne connaît pas parfaitement tous les paramètres d'un système donné, comme dans la mécanique statistique ou la thermodynamique. Mais il ne peut pas admettre qu'on ne puisse pas connaître tous les paramètres nécessaires à une détermination complète des processus. Il ne se résout pas à abandonner le modèle classique de la description des phénomènes physiques. Et donc il va chercher à défaire les paradoxes qui sont engendrés par les processus quantiques. Alors les controverses, elles commençaient tôt le matin. Einstein exposait au petit déjeuner une expérience idéale, susceptible à son avis de contredire les relations d'indétermination. Les physiciens de l'école de Copenhague, avec Heisenberg et Bohr en tête, commencent immédiatement à analyser cette expérience. Et sur le chemin de la salle de conférence, une première clarification de la question posée est réalisée. Au cours de la journée, de nombreuses discussions sont menées sur ce problème, et le soir, vous aviez Niels Bohr qui arrivait à prouver à Einstein, au cours du dîner, que l'expérience envisagée ne peut aboutir à une réfutation des relations d'indétermination. Le matin suivant, Einstein revient avec une nouvelle proposition d'expérience idéale, plus raffinée, susceptible de démentir à nouveau les relations d'indétermination. Donc il va pousser jusque dans ses derniers retranchements Bohr, et tous les jours, Bohr arrive à contredire Einstein et à lui montrer que, non, les relations d'indétermination ne sont pas mises en défaut par cette nouvelle expérience. Alors, pour Einstein, les phénomènes physiques se déroulent dans le temps et l'espace, indépendamment de nous, selon des lois fixes. Les symboles mathématiques de la physique théorique doivent reproduire ce monde objectif et par conséquent rendre possible des prédictions concernant son comportement futur. Or, au niveau des atomes, un tel monde objectif dans l'espace et le temps n'existe plus. Il va ressortir plusieurs fois lors de ce congrès la phrase « Dieu ne joue pas au dé » à laquelle Bohr répond « Mais ce n'est pas à nous de prescrire à Dieu comment il doit gouverner le monde ». On va écouter un titre d'un des plus grands compositeurs de cette période, Irving Berlin. Il a pas le rythme, chanté par Billie Holiday en 1936.
Thank you.
Alors, l'effort d'Einstein pour discréditer la mécanique quantique va culminer dans l'écriture en 1935 de l'article dit EPR, en collaboration avec Podolsky et Rosen. Donc EPR, c'est les initiales de Einstein, Podolsky et Rosen. Et à chaque expérience de pensée proposée par Einstein, Bohr avait répondu par des arguments montrant que le principe de complémentarité devait s'appliquer quoi qu'en dise Einstein. Et d'ailleurs, à l'article EPR, Bohr va répondre par un article qui porte exactement le même titre. Donc le titre de l'article exactement, c'est « Peut-on considérer que la mécanique quantique donne de la réalité physique une description complète ?» Et Einstein évidemment lui répond non à cette question dans son article, et Bohr y répond lui par l'affirmative. Donc pour plus de détails sur les articles EPR, j'ai mis un lien sur le site Petites Histoires des Sciences. Alors le problème central de cette étape du débat entre Bohr et Einstein est la détermination de la façon dont nous pouvons appréhender la réalité physique. Einstein et ses collaborateurs énoncent un critère de réalité, c'est-à-dire si sans perturber le système, en aucune façon nous pouvons prédire avec certitude, c'est-à-dire une probabilité de 1, la valeur d'une grandeur physique, alors il existe un élément de la réalité physique correspondant à cette grandeur physique, et une condition de complétude pour une théorie physique. Chaque élément de la réalité physique doit avoir un correspondant dans la théorie physique. Et il tire de ces principes la conclusion selon laquelle la mécanique quantique ne permet pas une description complète de la réalité physique. Or, Bohr répond que le critère de réalité cité comporte une ambiguïté essentielle et que l'article EPR ne fait que démontrer, je cite, « l'inadéquation essentielle du point de vue ordinaire de la philosophie naturelle pour une analyse rationnelle des phénomènes quantiques ». En d'autres termes, c'est ce qu'on avait déjà vu en 1920 avec le principe de correspondance, que notre langage est limité pour parler de ces phénomènes à l'échelle atomique. Bien, alors on va en faire une nouvelle petite pause musicale en 1935 où résonne le tube de encore une fois Irving Berlin chanté par Fred Astaire, Cheek to Cheek. And my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak. When we're out together dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and to reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Dance with me, I want my arm about you. The charm about you will carry me through to heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek. Thank you. Bon, alors, pour terminer, ni Born ni Einstein ne vont revenir sur leur position. Les autres physiciens, pour la plupart, ne se préoccupent plus de ces débats épistémologiques et cherchent avant tout à explorer les conséquences de la théorie plutôt que ses fondements. Alors, pour ce faire, ils se reposeront sur le principe de complémentarité, qui a le mérite de fournir une interprétation cohérente, si ce n'est parfaitement clair, de la mécanique quantique. Einstein, de son côté, cherchera une théorie qui doit, selon lui, servir de fondement à la mécanique quantique dans un approfondissement de la théorie de la relativité générale, jusqu'à sa mort en 1955, il refusera toute révision de notre attitude par rapport à la réalité physique. Pour Einstein, la tâche à accomplir n'est pas de s'interroger sur les possibilités de la définition des mots que nous employons pour décrire les processus quantiques, mais de produire une théorie qui ne fuit pas devant les statistiques. Alors l'opposition entre Bohr et Einstein porte sur le destin finalement des théories classiques. Selon Bohr, il faut trouver un moyen de conserver le langage des théories classiques dans la description des phénomènes quantiques. Il exprimera ces termes dans la revue Nature. Le langage de Newton et Maxwell restera toujours le langage des physiciens. Et pour Einstein, la réalité physique des processus quantiques n'est pas décrite de façon complète par le formalisme de la théorie quantique. Donc on n'arrivera pas à concilier les deux, et l'histoire donnera raison par les expériences à Niels Bohr. Bien, on écoutait Blue Skies de Frank Sinatra sur une musique, encore une fois, d'Erving Berlin, un auteur absolument prolifique de cette époque, comme l'étaient Bohr et Einstein. Et c'est sous ces cieux bleus de la physique que l'on se quitte. Vous retrouverez l'ensemble des références bibliographiques et musicales sur le site Petites Histoires des Sciences, ainsi qu'un article pour mieux comprendre le lien entre les rayons spectrales et la structure de l'atome proposé par Bohr en 1913 et point de départ du débat entre Bohr et Einstein.